RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Thomas Porcher, professeur d'économie, Joël Dagosséry qui est coach de vie et Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire. Dans 17 minutes, l'un d'entre vous tiré au sort et il aura gagné les deux places pour aller assister à Paris Saint-Germain-Bayern. Les amis, Paris Saint-Germain-Bayern, c'est simple, il faut envoyer foot par SMS au 732-16 dès que vous entendez ceci. On n'a toujours pas entendu dans l'émission d'ailleurs, non. Si je ne m'abuse.
Il est 11h, il reste une heure.
Il reste une heure, effectivement.
57 minutes, si tu veux être précis.
Restez à l'écoute des GG, des grandes gueules, parce que vous pouvez être mardi prochain au Parc des Princes avec votre ami, votre copine, votre femme, votre meilleur pote,
de la mairie de Paris.
Assister à Paris Saint-Germain, Bayern. Mais il faut envoyer foot par SMS au 732-16 dès que vous entendez l'hymne de la Ligue des Champions. En attendant, c'est le à vous de choisir.
RMC, les grandes gueules.
À vous de choisir.
À vous de choisir. Vous souhaitez que l'on reparle ensemble du cas Adrien Quatennens. Le cas Adrien Quatennens, hier à l'Assemblée nationale, au moment où il a voulu prendre la parole, celui qui siège pour le moment chez les non-inscrits, ça a été un tollé, tohu-bohu dans l'Assemblée nationale. Et on écoute.
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ce qui se passe ce soir ne peut pas être passé sous silence. Nous avons eu pendant deux jours des rappels au règlement. Des députés sont sortis de cet hémicycle parce qu'ils n'ont pas gagné au tirage au sort. Et quand l'un de leurs collègues, qui a été condamné pour avoir frappé son épouse, prend la parole sur un amendement, vous restez stoïque. Pire que ça, vous l'applaudissez. Où on est? C'est scandaleux. C'est une honte.
Voilà. Le président, hier soir tard, était Sébastien Chenu. Le député Rassemblement National, Adrien Quatennens, c'est le premier à essayer de prendre la parole. Et ensuite, le coup de gueule est venu dans l'hémicycle aussi pour dire c'est une honte ce qu'a fait la France Insoumise.
Finalement, Quatennens a pu quand même poser sa question, intervenir. Est-ce que c'est pas tout est malaisant, moi je trouve dans cette séquence. Ce qui est malaisant, c'est voir effectivement Adrien Quatennens qui vient d'être condamné pour avoir frappé sa femme et qui tout de suite quasiment réintègre l'Assemblée nationale comme si de rien n'était. Ce qui est malaisant, c'est la façon aussi, pardon, où le groupe Renaissance en fait des tonnes. J'entends Robert Gé dire c'est le summum de l'indécence. Enfin, il y a aussi quand même une instrumentalisation de l'affaire Quatennens à des fins politiques. Ce qui est malaisant, c'est les applaudissements. On applaudit qui? On applaudit Quatennens. Le repenti, enfin voilà, c'est qu'une drôle. Je sais pas ce que vous en pensez. T'es un Joël, toi. T'en penses quoi?
Non, mais j'aurais aimé vraiment de la mesure. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de disposition légale qui empêche M. Quatennens de se représenter, il n'y en a pas. Donc, poète camembert, on se la ferme. Oui, il
peut. Bien de remettre au goût du jour des expressions
françaises
un peu disparues, mais qui font tout le sel de notre langue aussi.
Poète
camembert.
C'est-à-dire qu'elle sort plus chez elle, donc elle a les expressions.
Elle est restée aux expressions à Jean Gabin, quoi, je veux dire.
Voilà, c'est ça.
J'ai jamais
entendu Jean Gabin dire poète camembert.
Non,
c'était pas trop son truc non plus.
C'est pas trop.
Je sais pas dans quel film.
J'étais plutôt Jean Lefebvre ou.
Ouais, d'accord. En Henri Guibé, peut-être.
Des fois, j'ai envie. Quand je les regarde, j'ai envie de leur dire à la ferme, quoi.
Pierre Tordade.
Enfin, taisez-vous, quoi. Taisez-vous. Parce que franchement, il parle, il a le droit d'être là. Quand je dis le droit,
c'est dans le sens de parler. Droit. Il fallait pas.
On le laisse parler. On l'applaudit pas. On l'applaudit pas.
Oui.
Surtout pas.
Oui,
on arrête de le huer. Surtout pas.
Donc, pas de huer, pas d'applaudissements.
Voilà, je veux dire, il n'y a pas à le mettre en lumière d'une manière ou d'une autre. Voilà. Il est revenu par la petite porte. Il fait son petit travail. Il prend la parole. Il va s'asseoir. Stop. Voilà, c'est tout. Ouais. Et j'aimerais vraiment leur dire des fois, mais taisez-vous, quoi.
L'Assemblée nationale, là, c'est devenu vraiment le théâtre, quoi. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils sont là juste
pour faire leur 30 secondes sur Twitter, et puis après on leur tend le micro, et puis alors là si quelqu'un arrive à aller encore plus loin, il va se faire toute une journée d'émission, et là on entendra parler de lui, parce que là Cazeneuve, moi j'avais jamais vu sa tête, hein.
Le député Cazeneuve,
enfin j'ai rien contre lui, hein, mais il est inconnu, alors là il a fait son moment, là c'est son moment de gloire,
Pierre Cazeneuve.
Attention, c'est son moment de gloire, donc c'est ça, il faut avoir le moment pour apparaître, et puis derrière ce moment peut-être que tu peux être la suite, tu vois, celui qui va remplacer le Macron, et on sait jamais ce qu'il faut, hein. donc c'est le théâtre, et donc en fait c'est ce qu'a dit Joël. Bon, il a été puni par la loi. Soit il y a des règles à l'Assemblée qui disent que quand tu as un casier judiciaire qui n'est pas vierge, tu dois quitter l'Assemblée. Soit dans le parti, il y a des règles fixes. Et là, le parti n'avait pas de règles fixes. Visiblement, c'était très vaporeux en tous les cas. Et ça, c'était plutôt à la tête du client, soit dit en passant.
Oui.
Et dans ce cas-là, il est de retour. Bon, il prend la parole, c'est un député, hein. Il va prendre la parole, il va voter. Ça suffit. On n'est pas dans une cour de récré. Ils n'ont pas 5 ans, là.
C'est pas d'accord avec vous, moi.
Ah, Monsieur Didier Giraud.
Je suis pas d'accord avec vous, l'Assemblée nationale composée de telle sorte, hein, pas avec une majorité écrasante où tout le monde est le doigt sur la couture et les autres ils la ferment. L'Assemblée nationale telle qu'elle est composée aujourd'hui, c'est un peu la Troisième République. La Troisième République, c'était ça, quoi. Lis sur ce qu'étaient les interventions à la Troisième République, c'était ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et moi,
sans
Twitter et sans
c'est beaucoup plus virulent même. Hein,
les mecs, ils se traitaient de tous les noms, quoi.
Ils se terminaient
du temps de Clémenceau et tout ça. On faisait un duel derrière, quoi. Quand tu t'étais fait insulter à l'Assemblée nationale, Clémenceau a gagné. Alors, je sais plus avec qui c'est. Duchesne ou Auriol, je sais plus lequel, il a fait un duel à l'épée, il l'a blessé, quoi.
Au premier sang, puisque ça s'arrêtait dès qu'il était touché, qu'il y avait une goutte de sang.
Et je trouve que l'Assemblée nationale française, c'est aussi ça. Et j'ai bien aimé cette intervention de Pierre Cazeneuve, justement, en dehors de ses idées politiques. C'est de dire, la NUPES, vous nous cassez les bonbons à faire le cirque, là, sur tout, sur rien, à taper les pupitres, machin, pendant des mois, vous vous effarouchez, et là, vous applaudissez un mec qui revient 3 jours après sa condamnation dans l'hémicycle.
Il a été applaudi par qui,
voilà.
En fait.
Mais c'est parce ça, c'est en pas, fait
il est
pas, là.
Mais il a applaudi, quand Katniss va pour prendre la parole, il est hué par une partie de l'hémicycle.
Oui, mais et après, il a hué qui, parce qu'il y a des gens de la NUPES qui sont partis.
Non, mais.
Sandrine Rousseau est partie.
Alors, voilà. Il y a quand même des femmes qui sont parties, notamment, Sandrine Rousseau, qui, dès qu'il a pris la parole, elles ont quitté, l'hémicycle.
Non, mais.
Là, on voit deux, je sais pas qui c'est, en fait, les deux élus, les deux députés qui l'applaudissent.
Qui sont autour de lui.
Je vois pas ce qu'on applaudit, en fait. Oui, voilà. Les applaudissements sont malsains aussi, en fait. Si les huées sont exagérées, les applaudissements sont malsains.
Ouais, mais c'est là où je veux dire, c'est aussi.
T'applaudis quoi? L'homme qui a tapé sa femme?
Non, mais c'est ça,
qui a fait sa peine et qui revient comme s'il venait de sortir de prison. Ah, bah voilà, bravo.
Moi, ce que je trouve bien dans cette séquence, c'est qu'on remet la NUPES un peu à sa place, quoi. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas. Côté donneur de leçons, le jour où ils sont dans le collimateur, ils ont plus
attitude. Déjà, c'est pas la NUPES, c'est les Insoumis.
Oui, c'est les Insoumis.
Et dans les Insoumis, ils sont fracturés sur cette question. Oui. Il y a une partie des Insoumis, notamment les femmes, mais pas seulement. Je pense à Alexis Corbière, qui aurait souhaité effectivement que Katniss ne revienne pas dans le groupe.
Moi, c'est mon avis personnel.
Et puis d'autres, et c'est Mélenchon, Bompard, et donc la ligne qui a le pouvoir dans ce groupe.
Ceux qui l'avaient désigné.
Qui disent non, ça y est, c'est bon, il a payé, il a suffisamment payé, maintenant basta.
Non, mais moi, le bordel à l'Assemblée nationale a commencé bien avant cette législature qui est soi-disant Troisième République. Je pense qu'on avait déjà observé avant des comportements qui commençaient un petit peu à nous les casser. Et sinon, à part ça, le moment, enfin, je veux dire, tu sais, il y a un moment pour tout. Là, le moment, il est quand même particulier. On est sur une réforme qui est contestée par le plus grand nombre. Les gens s'inquiètent parce qu'ils vont devoir travailler plus longtemps. Ils s'inquiètent de leur pénibilité. Tu vois, il y a un moment, les députés doivent comprendre le moment dans lequel ils se trouvent. Et là, je suis désolée.
Ils sont déconnectés.
Mais complètement. Ils
accusent Macron de pas comprendre. Je pense qu'elle est très contente.
Et ils ne comprennent rien. Il y a un moment où tu peux taper dans les mains et faire poète. Puis il y a un moment où tu te calmes, quoi. Et là, on devait se calmer.
Nous sommes avec Marie qui nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Marie.
Ce sujet-là a été instrumentalisé dans les deux camps.
Marie, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui s'est passé autour d'Adrien Quatennens hier? Alors, dites-moi.
Alors, moi, honnêtement, par rapport à l'affaire Quatennens, je ne comprends même pas en fait qu'ils sont encore à l'Assemblée. Pour quelqu'un qui vote des lois alors qu'il vient d'être condamné. Alors, c'est vrai que tant qu'on entend un discours, bon, c'était qu'une gifle, clairement, les violences conjugales ne cesseront pas, en fait. Et je pense que le fait qu'il soit à l'Assemblée, c'est un très beau message, en fait, pour tous ces hommes voilà, qui pensent que bah oui, c'est une gifle, mais non, c'est pas qu'une gifle en fait.
Non, mais on est tous d'accord avec ça. Nous sommes tous d'accord avec ça. Mais après, les règles, ne prévoient pas ça. Enfin, moi, comment on peut faire? Il y a des métiers où si vous avez un casier judiciaire, vous pouvez pas l'exercer.
Allez-y, Marie. Et député, c'est pas le cas.
Il est quand même, en fait, à la base, dans l'enceinte où. Mais
c'est pas un métier, c'est une fonction, pardon, c'est pas un métier. Mais non, mais c'est, je veux dire, c'est pour aller dans votre sens. Non mais pour aller dans votre sens, Marie, je suis d'accord avec vous. On peut pas comparer un boucher qui aurait battu sa femme d'un député. Le député, c'est une fonction, c'est pas un métier. Il avait un métier, Quatennens, avant. Sa fonction, c'est de représenter le peuple. Quelqu'un qui a été condamné pour avoir giflé sa femme, peut-il encore représenter le peuple? C'est la question que Marie pose.
Et c'est une insulte aux victimes de violences conjugales, Marie?
Alors honnêtement, pour moi, je trouve qu'en fait, en termes de message qu'on envoie en fait aux femmes victimes de violences qui déjà ont du mal à aller porter plainte, et quand elles y vont, elles ne sont pas forcément bien accueillies. Comment voulez-vous après leur dire mais si, allez-y, c'est le grand truc du moment, les violences conjugales, on est vraiment derrière. Mais la preuve que non, en fait.
Je vous rejoins, Marie, en plus, c'est que ça prouve une forme d'impunité.
Oui. Mais ça, on rejoint tous.
Le mec, il est condamné, il reste député de la République avec pignon sur rue, il a le droit de poser une question. Ça renforce le message d'impunité.
Et il est même applaudi par une partie de ses collègues.
Voilà, et moi, je suis complètement d'accord avec vous sur la ligne qu'il a rien à faire là-bas. N'empêche qu'aujourd'hui, il est dans son droit.
Voilà.
Et ce qui se passe derrière, pour moi, c'est logique.
Voilà. Non, mais moi, je suis d'accord, on est tous d'accord avec Marie. Si le parti avait tenu sa ligne, il n'aurait pas dû revenir. Et s'il y avait justement des garde-fous, je pense, à l'Assemblée, il faudrait y penser. Quand on est condamné, il n'y a pas de raison qu'on revienne et après qu'on fasse le beau et qu'on touche un salaire très élevé. Maintenant, il n'y a pas ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui balancer des tomates pendant 5 ans? On lui balance des tomates pendant 5 ans dès qu'il prend la parole? Enfin, c'est ça aussi.
Non, mais juste au moins un petit peu de décence, en fait. Quand j'entendais Mélenchon, avant même qu'il soit condamné, cette fameuse phrase qui est, mais pour moi, insupportable à entendre. Oui, ce n'est qu'une gifle. Merde. Oui. Non, c'est pas qu'une gifle. Une gifle, au moment où vous vous la prenez, vous ne savez pas comment ça va se terminer.
Ça vous est arrivé, Marie?
Ça m'est arrivé. En fait, à ce moment-là, c'est pas la gifle en soi. C'est qu'au moment où vous vous la prenez, vous savez pas comment ça va terminer.
Bien sûr.
Donc,
bien sûr.
Ces années qu'une seule
gifle. Et ça passe que si derrière, il n'y en aura pas d'autres, mais si ça sera pas comme ça.
Pardon, j'insiste un peu, mais. Marie, ça vous est arrivé, vous avez été vous-même victime de violences conjugales avec la gifle et d'autres choses derrière?
Oui. Mais je préfère pas trop en parler, mais c'est vrai
vous
que
vous sentez concerné par ce sujet, bien sûr.
Ben c'est pour ça que je trouve que pour les personnes qui n'ont pas justement, c'est un peu ce sacrage des impôts au visage, en fait.
Merci Marie de votre témoignage. Merci d'avoir été avec nous. On va voir ce qu'en dit Brice. Bonjour Brice de Normandie, qui est serveur. Bonjour.
Bonjour les grandes gueules.
Qu'en dites-vous? Vous avez entendu l'émotion et la colère de Marie? Colère contenue.
Je la comprends totalement. Mais après, moi, ce que je me rappelle aussi, c'est qu'on avait une France insoumise à l'époque qui pestait parce que la parole des femmes n'était pas assez prise en compte. Et maintenant, c'est quoi le message qu'on renvoie quand Quatennens, il est applaudi à l'Assemblée après sa condamnation? Le discours, il est beau. C'est qu'on voulait de l'exemplarité. On a crié sur Renaissance pour Abad, qui d'ailleurs, comment disait Aurore Berger, insoutenable, c'est ça? Alors qu'ils ont tous soutenu Damien Abad, pareil, dans les mêmes conditions.
Alors Damien Abad, la différence, c'est que Damien Abad
n'a jamais avoué.
Je ne suis pas son avocat. C'est que pour l'instant, il est présumé innocent et il nie les faits. Alors que Quatennens, lui, a reconnu les faits. Il a même plaidé coupable. Il a été condamné sur un plaidé coupable.
Voilà. Donc on a ça. Après, ce que je disais, c'est qu'on est plutôt dans la pitrerie parce qu'on a un chenu qui est à l'Assemblée, qui essaie d'arbitrer les débats, qui est obligé de dire d'arrêter aux députés, d'arrêter de crier, mais qu'il n'en pense pas un seul mot. Au contraire, ça le ravit. Ça en fait encore le jeu du RN parce que pendant que le LFI et Renaissance se tape dessus, c'est le Front National qui est en train de tracer sa porte dorée jusqu'à 2027, mais ça inquiète personne.
Ouais. Donc vous rejetez tout le monde, en fait. Vous dites,
vous envoyez beaucoup des choses, Brice.
Le problème, c'est qu'en fait, l'affaire Quatennens, là, c'est un marqueur de comment l'Assemblée nationale est en ce moment. C'est un sketch. En fait, il n'y a pas. Après, comment? Je vous dirais que je suis contre les gens qui ne vont pas voter, mais quand on voit ça, il ne faut pas s'étonner que les gens ne vont plus voter, en fait.
Pas faux ce que vous dites, effectivement, ouais. Brice. Je vous remercie. Alors,
qu'est-ce qui va se passer? Parce que Adrien Quatennens, il y a encore 4 ans de oui. mandature.
Ah oui. Eh ben, il est en suppléant, il le remplace. Enfin, je sais pas, ils ont
attendu. Non, mais là il va être là, là, visiblement.
Ouais,
hier,
il va être là.
Hier,
non, mais
il a
d'abord lui qui a choisi d'être
là. Attends, il a signifié son retour.
Et ça voudrait même prendre sa parole. S'il en ramasse plein la gueule pendant 4 ans, c'est bien fait pour lui, quoi.
Tu es contradictoire, tu viens de dire là.
Il y en a pour qui, par exemple, excusez-moi, mais bon, même que le geste soit tout aussi malheureux. Mais des mecs comme Bertrand Cantat, eux, c'est encore pire. Bon, ils ont tué leur femme. Mais les mecs, ils n'ont jamais pu reprendre leur carrière artistique derrière. Donc, même politique.
Heureusement.
Il n'a plus rien à faire en politique, ce monsieur.
Oui, mais il n'a pas tort. C'est-à-dire
mais oui, mais c'est lui qui fait le choix d'être là.
On empêchait Cantat de remonter sur scène.
Non, c'est pas lui qui fait le choix d'être là. C'est sa famille politique aussi, avec son patron.
Il aurait pu démissionner.
Ah, mais je suis debout.
Ouais, moi, j'aurais si tu veux dans la mesure.
En jeu. Bien sûr, mais dans la mesure où tu sens.
Tu t'es déjà interrogé là-dessus, Olivier?
Sur quoi?
Toi, personnellement, t'es condamné pour ce type d'affaires. Est-ce que t'as le courage de retourner prendre le micro à l'Assemblée nationale? Moi, j'aurais jamais eu ce courage-là. J'aurais démissionné. Donc, s'il se prend les tomates dans la gueule pendant 4 ans, c'est bien fait pour lui, quoi.
Brice, Marie, merci d'avoir discuté là pendant 10 minutes, un quart d'heure avec nous. On a laissé courir depuis qu'on a commencé le sujet une petite consultation, justement. Adrien Quatennens, hué à l'Assemblée nationale. Selon vous, est-ce que c'est mérité, oui ou non? C'est un oui assez franc 70, et massif, quasiment 70%, effectivement. Dans un instant, dans GG 7 et match, pour conclure les GG, pour conclure les grandes gueules. Alors attention, on a un GG 7 et match autour du véganisme. Un quart des Français sont prêts à devenir véganes, notamment pour protéger la vie animale et pour des raisons environnementales. Alors, est-ce que c'est encourageant ou dangereux? Encourageant ou dangereux? Un quart des Français prêts à devenir véganes. On a Thomas Porcher qui dit c'est plutôt encourageant et il est seul face au reste du monde,
oh là là.
Incarné par Joël, Didier et Olivier.
On va le manger tout avec
RMC. RMC. 9h midi. Les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec. C'est genre l'heure du GG 7 et match. Les amis, on y va.
RMC.
GG 7 et match.
GG, c'était match autour du véganisme. Alors, c'est une étude du service de livraison Deliveroo avec YouGov qui nous montre que près d'un quart des Français seraient prêts à tester le véganisme pendant un mois. D'accord? Les 18-24 ans, 40%. 36% chez les 25-34 ans. 51% des personnes interrogées sont même prêtes à devenir véganes pour sauver les animaux. 41% pour des raisons environnementales. Alors, est-ce que c'est une prise de conscience encourageante dans notre époque, parce qu'on est en train de passer à autre chose, ou bien est-ce que c'est inquiétant, encourageant pour Thomas Porcher, inquiétant pour les viandards qui sont trois, Olivier, Joël et Didier. Et c'est parti, t'as les 60 secondes.
On a un poisson, hein, parce que c'est...
Thomas Porcher, c'est parti.
Alors, la première chose que je vais dire, c'est que moi aussi, je mange de la viande. Hein. Là, on parle de l'évolution, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, moi, je pense que nous consommons trop de viande et de la viande de mauvaise qualité. Et derrière ça, il y a quoi? Il y a l'élevage intensif. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, ces poulets qui sont élevés en batterie, qui n'ont jamais vu le jour, qui se chient dessus. Et à la fin, vous avez une cuisse de poulet, il n'y a rien dedans. Et c'est ça, à un moment qu'on nous a vendu comme le progrès. Et je pense que c'est pas le progrès, ça. Et quand on parle de véganisme, le mouvement qu'il y a entre manger de la viande et le véganisme, au milieu, il y a plusieurs 50 nuances, on va dire, de consommation de viande. Il y a les flexitariens, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, et ça se voit dans beaucoup de restos, hein, qui proposent des menus végétariens, il va falloir limiter notre consommation de viande et réapprendre à consommer de la viande de meilleure qualité. Parce que, je veux dire, les 10 steaks en surgelé à 1,50€ dans les grandes distributions ou les poulets qui n'ont jamais vu le jour, ça peut plus être possible. Au final, tu manges quelque chose qui est dégoûtant et c'est ça le progrès de manger ça tous les jours. Je ne suis pas d'accord.
Il a fait 5 minutes.
Il a fait monde honorable déjà.
Oui.
Parce qu'il n'a pas défendu le véganisme. Il a défendu la viande de qualité.
C'est vrai, pour faire changer l'industrie alimentaire. Nous allons devoir à un moment, pour des raisons climatiques, pour des raisons d'environnement, de respect de l'animal, consommer moins de viande. Donc on va faire un pas vers le viandard, la viande qui devait être à chaque repas,
on va manger moins
de produits animaux.
Pardon Thomas, sujet, on parle du véganisme. Le véganisme, c'est quoi? Le véganisme, c'est une personne qui exclut de son alimentation tout produits d'origine animale. Donc, c'est pas
que de l'alimentation.
C'est pas seulement la viande, c'est aussi le poisson, le lait, les œufs et même le miel. Voilà. Donc, et effectivement, tous les produits, ça peut être les vêtements qui sont issus de l'exploitation, entre guillemets, animale. Donc là, tu as défendu, toi, une alimentation saine où on mange pas
plus
trop de viande.
Plus équilibré.
Ce qui est autre chose. Le véganisme.
C'est pour ça que c'est encourageant.
Le véganisme, c'est
encourageant.
C'est mauvais pour la santé. C'est une contre-vérité de dire qu'on peut. Aucun médecin ne conseillera aux parents de nourrir son enfant à la mode végane. C'est parce que ça provoque des carences. Alors ils vont nous appeler, les végans ou les véganes, je ne sais pas comment on les appelle, les végans, ils vont nous appeler en disant, mais si, moi je suis végane, machin. Oui, mais il va nous expliquer qu'il est obligé de prendre des petits cachets à côté pour compenser les carences qu'il a. Donc sincèrement, si c'est ça le progrès, ça fait penser au pire des films de science-fiction.
Non, mais ce qui est encourageant, c'est que des gens
qui ont une prise de conscience.
Il y a une prise de conscience sur le mal-être animal, la surconsommation animale.
Joël, le meilleur pour la fin. Joël.
Non, moi, je crois. Quand j'entends tout ça, moi, ça me.
Donne envie de manger un burger.
Non, mais on parle chinois, pardon. Je ne parle pas chinois, donc je dis qu'on parle chinois. J'aimerais juste qu'on revienne à quelque chose de plus basique. L'alimentation, ça sert, à prendre du plaisir, ce que tu veux, mais ça sert surtout à ce que notre corps reste en vie.
Exactement.
Et franchement, quand on était petit, Thomas, à l'école, on nous apprenait à manger équilibré. Tu vois, c'est simple. On te disait, ta part de féculents, ta part de légumes, ta part de viande, etc. Et en fait, si tu respectes ça et si tu reviens à ça, tout est tranquille. T'as pas besoin d'être végane, de tout couper. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut radicaliser ou polariser. Si t'es pas dans ça, alors ça veut dire que t'es pas éclairé, t'es pas conscient.
Merci,
t'es pas truc.
Merci Joël, c'est pour ça que j'ai pas polarisé.
Voilà,
le débat,
exactement. Exactement. Et donc, il faut arrêter d'être hyper conscient. Il faut juste revenir à quelque chose d'assez simple, qui est à l'équilibre. Et à ce moment-là, oui, on arrêtera peut-être de tuer plein d'animaux parce qu'on mangera un peu moins de viande, parce qu'en réalité, pour la santé, c'est pas très bon. Et puis, etc. C'est tout ce qu'on demande. Et là, t'as des gens qui sont vraiment devenus des consciencieux et tout d'un coup te mettent le truc animal, le machin.
Non, moi, je suis d'accord avec Joël. Non, mais là, Joël, elle a raison. C'est-à-dire qu'on a des gens qui prennent ça comme de la morale et ça devient imposer une morale.
Ça,
c'est horrible. Mais après, là où je vais quand même ajouter quelque chose et Joël va être d'accord avec moi, c'est-à-dire que ce repas équilibré, etc., il existe de moins en moins, surtout chez les personnes populaires. Tu vas dans les quartiers populaires. On te vend des burgers avec 18 steaks, dégueulasse, supplément XXL avec des produits. On te vend un truc qui est toujours ancré sur la viande comme plat principal que l'on doit doubler, tripler, quadrupler, qui est de mauvaise qualité, les wings qu'on doit mettre en dizaines de paquets, la viande de mauvaise qualité, la boisson sucrée dégueulasse en un litre. C'est ça en fait qu'on donne aux pauvres. Et aujourd'hui, moi je pense que, c'est pour ça que je dis, il y a quelque chose d'encourageant là-dedans. Comprendre que la limitation de la viande, c'est pas l'ennemi de la santé, c'est une bonne chose.
Ouais, mais le vegan,
Didier, j'ai qu'un seul regret, c'est que ça soit toi, Thomas. Parce que toi, t'es dans notre camp, des gens. J'aurais aimé avoir Barbara en face de moi. Parce qu'on aurait fait le vrai débat. Non, je vais aller sur ton terrain en dehors de tout le plaidoyer que t'as fait sur la viande de qualité. Parce que moi, j'ai quand même le sentiment de produire de la viande à base d'herbe.
T'as le sentiment ou c'est vrai?
Non, c'est vrai.
Ah bon, les vaches mangent pas du soja.
Par rapport à l'idée reçue, j'ai pas le sentiment de polluer la planète, quoi. Et je ne pollue pas la planète. Mon bilan carbone est équilibré, quoi. Je produis des protéines animales à partir de protéines végétales qui sont des pièges à carbone. Il faut le redire de temps en temps. Quand toi, Joël, l'air comme ça, parce que c'est un acquis, c'est pas si bien que ça de manger de la viande. Non, c'est pas bien de manger de la viande en excès. Mais manger de la viande de façon raisonnée, c'est pas un problème. Et je vais sur ton terrain. Et là, à mon avis, il y a un vrai problème. Aujourd'hui, on dit il faut le véganisme est un courant de pensée qui emmène les gens parce que ça règle le problème des pauvres. Mais c'est faux. Que l'alternative végane aux pauvres.
Plus de riches, le véganisme.
C'est exactement ce qu'on a dit. C'est exactement ce qu'on a dit sur les betteraves. Le tofu des pauvres, c'est un tofu qui est produit en Amérique du Sud avec du soja sud-américain issu de la déforestation et de la chimie. C'est de la chimie.
C'est l'inverse.
Le véganisme, c'est de la chimie.
Et d'ailleurs,
les plus gros lobbyistes végans, c'est d'abord Monsanto, quoi.
Mais je suis d'accord avec vous.
Parce que quand tu remplaces un kilo de protéines animales,
les végans sont les idiots utiles de Monsanto.
Oui, même. Non mais même c'est la startup nation,
le tofu
les végans.
Bio, ça n'existe pas. Hein.
Les végans, c'est la startup nation. C'est-à-dire les gens qui créent leur petite boîte là de produits végans. L'autre fois, j'en ai vu au journal. C'est la startup nation. C'est des mecs d'école de commerce. C'est la même chose.
C'est un business. Aujourd'hui, c'est un business. Faut pas être dupe.
Je suis d'accord avec vous. Moi, je défends pas le véganisme. Je trouve qu'il y a 50 nuances de gris entre la consommation où il faut absolument que tu aies de la viande.
Mais la vraie question, c'est on donne quoi à bouffer aux pauvres? Parce que ça, c'est une vraie question, quoi. Oui. C'est une vraie question. Les gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat, on donne quoi à bouffer à ces gens-là?
Parce que derrière ça, les statistiques le montrent. Plus tu es pauvre, plus tu es en surpoids. Parce que tu manges des produits de très mauvaise qualité.
Oui, mais c'est ce que t'as dit. Voilà,
Tu veux monter un business aujourd'hui pour attirer des pauvres. C'est très simple. Tu fais la formule XXXXL pour 0,50 centimes de plus avec un litre de coca. Et là, tu t'adresses aux pauvres. Quand tu t'adresses aux riches, tu vas leur produire. En fait, quand tu vas dans un resto, en fait, du 11e, très bobo, et ben ce seront des produits dans des quantités plutôt assez faibles, mais de très bonne qualité.
Et ça sera 25 euros.
Ça sera pour les bobos.
Donc en fait, le véganisme, c'est un délire. En plus, le véganisme, c'est pas pour mieux manger. C'est pas ça. Le véganisme, c'est pour arrêter d'exploiter les animaux. Là,
il y a une vraie question de l'exploitation
animale. Les gens qui deviennent véganes ne le font pas parce qu'il faut mieux manger, parce que je pense qu'ils mangent moins bien et d'ailleurs ils mettent leur santé en danger. Non, ils sont véganes parce qu'ils estiment qu'il faut arrêter d'exploiter l'animal. C'est un combat idéologique.
Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus riche que d'être végane. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand t'es pauvre, tu culpabilises encore de ne pas mettre de la viande dans ton frigo.
Ligue des champions, les amis, ça vient de tomber. Attention, vous avez 5 minutes devant vous pour envoyer foot par SMS au 732-16. 5 minutes devant vous pour envoyer foot par SMS au 732-16. C'est limité à 3 SMS, 75 centimes d'euros le SMS. Il y a Joël qui joue, je rêve.
Je joue parce que je vais emmener mon mec voir Bayern.
Et c'est deux places pour aller voir PSG Bayern mardi prochain. Ouais. Donc allez-y, vous gênez pas, un tirage au sort. Vous envoyez foot par SMS au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner. Donc, Joël, ça y est, t'as envoyé foot.
Oui, qu'est-ce que je disais?
Je ne sais plus.
Attends, envoie foot.
Vas-y,
attends, parce que c'est le jour de la Saint-Valentin, Joël.
T'as vu, c'est un choix très compliqué à son mec. Et il n'y a qu'une place.
Non, il y a deux places.
Alors, qui a joué au PSG et au Bayern? Ah, bah, c'est Kingsley Coman. Bonne réponse en même temps.
Pas mal. T'as on joue en direct.
Bonne réponse. RMC, je compte sur vous.
Maintenant, il y a un tirage au sort.
Ouais.
Allez, vas-y alors.
Alors, je disais qu'aujourd'hui, quand tu n'as pas d'argent, tu culpabilises encore de ne pas mettre de la viande. Tu ne penses jamais à te dire « Ah, mais c'est pas grave, j'ai qu'à être végane. » C'est pas vrai.
Non, bien sûr, c'est vrai.
Tu te demandes encore comment je vais mettre un poulet, mes enfants ne vont pas manger de poulet aujourd'hui, etc. Ou de la viande. Donc, je pense que même la pensée végane, elle descend pas jusqu'aux couches qui sont pauvres.
Elle ne descendra jamais.
On y va, mon cher Didier, pour regarder où on est dans la consultation. On discute depuis 13 minutes, là. Un quart des Français prêts à devenir vegan, notamment pour sauver la planète, pour la condition animale. Est-ce que c'est encourageant ou inquiétant? C'est au 32-16 qu'on va en discuter dans un instant avec Thierry, qui nous appelle des Hautes-Alpes. Mais on y va, voyons où on en est à la mi-temps. Inquiétant, 82%. Ça va être compliqué de remonter un peu. Essayez d'atteindre,
mais nous, on parle aux vrais gens.
Essayez d'atteindre 20% quand même.
Attention, c'est encourageant ou inquiétant? C'est encourageant parce qu'il y a un changement de mentalité vis-à-vis de l'alimentation.
Dans le bon sens, tu veux dire. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. On parle de véganisme. Un quart des Français prêts à devenir vegan.
Prêt à se lancer, à essayer.
Et après, il y en a 50% chez les 18-34 ans qui disent nous, on est vraiment prêts à le devenir pour protéger les animaux au nom de la condition animale. Alors, est-ce que c'est encourageant? Est-ce que c'est inquiétant? Mon cher Thierry des Hautes-Alpes, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe.
Monsieur le restaurateur, est-ce que vous pensez que c'est encourageant ou inquiétant?
Alors, encourageant, inquiétant, je ne sais pas si c'est les termes qu'il faut utiliser. Je pense qu'il faut une remise en question un petit peu de tout. Moi, je travaille avec des producteurs locaux, beaucoup sur des légumes, sur des fruits, parce qu'on a un coin qui est porteur sur ça. Ça fait 2 ans depuis le Covid où on a une évolution des mentalités. Moi, je fais tout venir deux fois par semaine un producteur juste à côté qui n'a pas de frigo, qui me livre parce qu'il peut pas les stocker, donc il me les livre et nous on fait les fonctions, on fait les cartes en fonction, quoi. C'est-à-dire que maintenant c'est la nature un peu qui nous guide. On n'est pas comme il y a quelques années où on faisait une carte pour 3 mois, sûr. Pour 4 mois.
C'est la vous saisonnalité
faites...
au même
mais
temps.
Mais vous faites pas de produits d'origine animale?
Si, moi je suis. Alors, lorsque j'élabore mes menus, j'ai forcément une entrée tournée tous légumes, donc on essaie de travailler au maximum de façon à ne pas faire de déchets, à émettre différentes textures et tout ça. Et puis après, j'essaye d'établir mes menus, d'évoluer nous aussi, parce qu'il faut aussi qu'on évolue avec notre temps. Mais j'ai forcément une entrée à base que de légumes, une entrée à base de poisson, une entrée à base de viande. Voilà. C'est à nous de contenter tout le monde, mais je pense qu'il faut pas être trop radical. Il faut essayer de contenter tout le monde et sans chercher.
Thierry, il est avec moi, Thierry. Il est avec moi.
Non, parce que le véganisme.
Moi, j'ai pas défendu le véganisme.
Le véganisme, c'est pas une doctrine adaptable.
Le véganisme, c'est une doctrine radicale qui ne supporte pas la présence de quelqu'un qui mange la viande.
On a peu parlé du volet non alimentaire du véganisme. Parce qu'il faut quand même qu'on en dise deux mots. Le volet non alimentaire du véganisme, alors sur tout ce qui est textile,
les vêtements,
sur tout ce qui est produits de beauté, il y a aussi le volet médical, quoi, où on ne supporte plus qu'il y ait de l'expérimentation sur les animaux. Il y a quelques vaccins, je suis désolé, qui ont quand même été trouvés parce qu'ils ont été expérimentés sur les animaux. Et après, le postulat de départ des végans qui dit que l'animal est l'égal de l'homme et a une conscience et ressent la douleur exactement comme l'homme, c'est quelque chose que je réfute, moi. Je suis pas d'accord avec ça, quoi. Bien sûr que l'animal peut avoir une forme d'affection, d'attachement, de reconnaissance, mais on peut pas le mettre sur un pied d'égalité avec l'homme, quoi.
Thierry, comment s'appelle votre resto, là, si on veut passer vous voir?
Alors, nous, c'est le restaurant L'Araignée Gourmande à Laragne-Montéglin. On a un bib gourmand depuis 8 ans. C'est rapport qualité-prix, petite table de village. Et voilà.
C'est l'air bon chez vous, c'est l'air bon.
Bah, ça a l'air bon.
On a envie de venir.
Vous avez quoi à midi, là, Thierry?
Alors, ce midi, moi, c'est jour de fermeture. Donc, là,
c'est pour ça qu'il est avec nous.
Avant de passer à l'antenne, j'ai préparé une truite locale des Hautes-Alpes qu'on va saler, qu'on va fumer pour la Saint-Valentin. Voilà, mais voilà, donc on essaye de pas faire venir trop de loin.
Attendez, parce que votre truite, on la bouffe dans 8 jours, là.
S'il la sale et qu'il la fume pour faire des filets.
Moi, en fait, on est complet, donc du coup, on va servir notre menu Saint-Valentin dès samedi soir.
Et là, les touristes arrivent, là, en plus, c'est les vacanciers, là.
C'est ça. Après, nous, on est un peu loin de... On est à une heure et quelques de la montagne. On est à 1h30 de la mer. On est bien situé. On a 7 tables, donc on a... Mais il faut encore les faire pleines. Mais bon, ça va. Le moral est bon. Et puis, on
se branche. Tant mieux. Merci Thierry d'avoir été avec nous. Bonne journée. À bientôt.
J'aimerais nous rejoindre.
Non, j'aimerais ajouter quand même une chose. C'est si le mouvement du véganisme s'est développé avec toute cette radicalité.
Notamment chez les jeunes.
C'est qu'il faut voir aussi quand même toutes les images que nous avons vues sur la maltraitance animale dans les élevages, dans les abattoirs. Non mais vraiment, il y a eu des images. Ça vient de là.
On dit que ça n'existait pas, c'est bien instrumentalisé, mais ça existe.
Bien sûr. Oui, voilà. Et c'est bien instrumentalisé, mais ça existe quand même. Et c'est partant de ce constat que les gens se sont dit, voilà, il y a une maltraitance animale.
On va en parler.
Et puis même l'agro-business, les fermes à 5000, 10 000 vaches, les vaches, les rendements imposés aux vaches pour le lait, etc. Enfin, les gens se rendent compte que pour qu'une partie en plus de tout ça finisse à la poubelle, parce qu'il y a une grosse partie de l'aliment. Et là, il y a un vrai problème que l'on fait peser sur l'animal et qui finissent finalement nulle part.
Voilà. Nous sommes avec Stéphane qui nous appelle du Val-de-Marne, qui est chef de projet. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Mais en pleine forme, est-ce que vous avez choisi votre équipe, mon camarade?
Moi, je suis Team Porcher parce que je pense sincèrement que le moins consommer de viande serait une bonne chose pour la planète. On peut pas dire aujourd'hui, donc tout à l'heure, je vous entendais, vous disiez que le véganisme est dangereux dans la radicalité, ce que je peux, là, je vous rejoins aussi, mais on peut pas dire aujourd'hui, vous pouvez pas dire aujourd'hui que le schéma actuel de production de la viande au niveau mondial est une bonne chose aussi pour la planète. Moi, je pense qu'il faut équilibrer les choses. Moi, à titre personnel, ça fait plus de 25 ans que je mange pas de viande, mais ça, c'est un choix perso, ça n'a rien à voir avec le choix animal, etc. C'est juste notre éducation qu'on a eue par le biais de notre maman. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, justement, pour répondre à Olivier Truchot, c'est ça qui m'a fait appeler, parce que je trouvais que c'est n'importe quoi. Ça, pour moi, c'est de la méconnaissance. Désolé, Olivier, mais c'est la vérité. J'ai pas de carence. Je ne mange pas de viande, c'est plus de 25 ans, je n'ai aucune carence.
Mais vous mangez du poisson ?
Non, même pas, c'est rare.
Des œufs ?
Non, ça, non, non.
Rien d'animal, quoi, en fait.
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'animal est juste un intermédiaire entre les plantes et entre les plantes.
Vous ne prenez pas de cachet à côté pour vous. Vous avez des carences.
Ça existe pas.
Envoyez-nous une photo de vous parce qu'on voudrait quand même être sûr. Vos analyses.
Vous avez forcément des carences.
Allez-y.
Non, Stéphane. Même ma soeur, parce qu'en fait, on est une maman qui est nutritionniste et elle nous a toujours expliqué que physiologiquement, l'homme n'est pas fait pour manger de la viande. Parce qu'il a, c'est comme ça. Vous pouvez voir les mammifères, ils mangent pas de viande, les mammifères.
L'homme est omnivore. L'homme est fait pour tout manger.
Il n'y a pas de carence. On n'a pas de
l'homme
carence.
L'homme est omnivore.
Tant mieux, tant mieux.
Pardon, mais si aujourd'hui, l'homme s'est développé et devenu ce qu'il est, c'est parce que, depuis le début
de
son arrivée
sur
cette planète, c'est parce qu'il s'est nourri de protéines animales.
L'Australopithèque a le cerveau qui s'est développé. Quand il a commencé
votre cerveau,
alors, le cerveau n'aurait pas été aussi développé. Attendez.
N'aurait pas été aussi développé.
Que Stéphane finisse, allez-y.
Je vais vous dire, pour finir,
juste pour votre maman.
Sincèrement, il faut avoir un équilibre pour la planète.
Oui.
Pas trop d'égalisme, pas trop de viande non plus. On peut pas dire que les deux opposés sont bons pour la planète. Maintenant, d'un point de vue scientifique, moi en tout cas pour mon cas, parce que je ne parle que de mon cas, moi je suis en très bonne santé.
Vous êtes un miracle de la science.
Vous avez des enfants, Stéphane ?
Oui, trois enfants.
Alors, et comment vos enfants, c'est pareil alors du coup ?
Non, nous on leur laisse le choix. On leur laisse le choix parce que c'est un choix personnel. Elles peuvent manger de la viande, du poisson. Mais ma femme aussi ne mange pas de viande, elle est en très bonne santé.
Tant mieux.
Et voilà.
Vous êtes jeune.
Ce qui est bien chez vous, Stéphane, c'est que déjà, vous ne cherchez pas à nous convaincre de changer de camp. Ça me paraît.
Chacun est libre.
Une base de cohérence, déjà, qui me plaît bien, parce que moi.
Ah oui, moi, j'ai rien contre.
J'ai rien contre les végans dans la mesure où ils veulent pas aider tout le monde dans leur système. Après.
Mais vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, le schéma actuel de la production mondiale de la viande, vous ne pouvez pas dire qu'il est bon pour la planète.
Mais on est d'accord, Stéphane.
Il y a une baisse de la consommation de la viande.
Je peux être complètement d'accord avec vous, sauf qu'il se pose un problème. Et vous le raisonnez de façon mondiale, c'est hyper intéressant. C'est qu'aujourd'hui, selon toutes les projections, on va être demain 7, 8 milliards d'habitants sur cette planète. Et l'enjeu, quand même, pour être ce niveau-là, c'est de donner à bouffer à tout le monde. Donner à bouffer à tout le monde avec le système très perfectible que vous décriez sur la protéine animale, on est d'accord. Si on le transpose en 100% protéine végétale, ça tient pas, quoi. Il faut stériliser des gens, quoi. On en est là.
Très bien qu'on pourrait. Là, regarde.
La bouffe qui régulait la population, non, quoi.
Bien sûr, sauf que là, on a suffisamment. Il y a 1 milliard d'individus qui n'ont pas à manger. Est-ce qu'ils n'ont pas à manger parce que il n'y a pas de denrées alimentaires supplémentaires ou parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'acheter?
Ah, un peu les deux quand même.
Plutôt l'un que l'autre, moi je pense.
Il y a d'abord et avant tout des paysans pauvres. Les premiers qui souffrent de malnutrition, c'est d'abord des paysans. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'enjeu de la planète, si on dit et je peux entendre que la protéine végétale telle qu'elle est faite au niveau mondial, c'est pas satisfaisant aujourd'hui. Mais si on dit on l'arrête, il faut que dans le même temps on prenne des mesures pour limiter la natalité au niveau du globe. Ça me paraît être obligatoire.
Non, à titre personnel, essayez chacun de manger moins de viande et vous verrez, vous sentirez mieux.
Mais c'est déjà le cas. Mais je veux dire, sincèrement,
commencez à essayer de nous convaincre.
Moi, je mange moins de viande que mes grands-parents. Mais c'est dans le sens de l'histoire. On mange moins de viande qu'avant.
Peut-être moins physiquement.
Je travaille peut-être moins physiquement aussi.
Par rapport à vos habitudes, faites le test. Vous verrez comment vous sentirez déjà.
Mais moi, je me sens très bien, Stéphane. Je pense en très bonne santé. J'ai pas de carence.
Tant mieux.
Non, mais je pense qu'il y a eu un
peu quand même de. On mange déjà moins de viande. Oui, moi, en adulte, je mange moins de viande qu'avant. Moi, si vous voulez, Stéphane, j'avais un grand-père qui travaillait aux abattoirs de Nice.
Oui, bah là,
et donc, j'avais de la viande tous les jours, moi.
Ouais. Et puis, c'était un marqueur social, la viande.
Bien sûr, bien sûr.
Pour l'un et l'autre, que ça soit le vegan ou que ça soit le viandard, il faut un équilibre. Les deux extrêmes.
Bien sûr.
De toute façon, il n'y a pas un médecin qui vous dira il faut manger que de la viande ou il faut rien du tout manger. Il faut manger équilibré. Il faut manger de tout avec modération.
Nous sommes d'accord. Et puis, il faut quand même rappeler une chose importante, c'est que finalement, ces problèmes de ce que l'on doit manger et tout, ça date d'une trentaine, quarantaine d'années dans les pays riches.
Oui, c'est les problèmes de riches.
Parce qu'avant, tu mangeais ce que tu avais.
Exactement. Bah,
et maintenant, c'est des problèmes.
Allez, on va passer après Stéphane Duval de Marne, que je remercie d'avoir été avec nous. Et bonne journée, mon cher Stéphane.
Bonne journée.
À bientôt.
Merci, Stéphane.
À bientôt pour de nouvelles discussions. On a Olivier, qui est professeur de SVT, qui est du côté de l'Orne.
Allez, Olivier.
Bonjour, Olivier.
Bonjour.
Quelle équipe vous êtes alors?
Bah, je suis un peu entre les deux, je trouve ça encourageant, mais moi je ne le ferai jamais.
Ouais.
Parce que je suis végétarien, mais vegan, non.
D'accord, c'est-à-dire végétarien.
Pourquoi vous faites cette différence pour vous?
Ah, parce que c'est d'un point de vue équilibre, je trouve qu'il faut quand même quelques protéines animales, et donc, il faut. On pourrait s'en passer, mais c'est compliqué.
Ouais. Vous mangez un peu de poisson?
Non, jamais.
C'est quoi alors les protéines animales, les œufs?
Les œufs, le lait, les produits laitiers, le fromage.
Ouais.
D'accord. Et par exemple, votre repas de midi, ça va être quoi, Olivier?
Là, ça va être des galettes avec des œufs, du fromage.
Et ce soir, des œufs, du fromage avec
des galettes.
Des galettes.
Oui, des galettes de Saratin.
Et demain, peut-être des galettes, des œufs et du fromage.
Des galettes avec peut-être
c'est
un peu
de fromage.
C'est tout moqueur, Olivier.
Non, mais
c'est important.
Non, mais là où il a raison, Olivier.
On s'est fait des galettes.
Olivier, là où il a enfin, moi. Allez-y, Olivier. Je le dirai après. Pardon.
Comment vous arrivez à varier les menus, justement, Olivier?
Oh, mais c'est pas compliqué. Hein. Je suis abonné à une AMAP, donc tous les jours, toutes les semaines, j'ai un grand cadeau de légumes. Et je fais avec.
Ça veut dire que vous allez faire 3 mois rutabaga, pommes de terre, choux.
Avec la saisonnalité,
c'est formidable.
Les légumes d'hiver, il y en a un peu plus.
On est capable de faire plein de choses.
Je sais bien, imagine. Et vous êtes en pleine forme, pas de carence non plus, 57 ans, Olivier. Et vous êtes végane depuis...
Végétarien, il est végétarien.
Vous êtes végétarien depuis combien d'années?
Bon, ça fait une dizaine d'années.
D'accord. Ouais. Et comment vous êtes devenu végétarien?
Oh, ça s'est fait petit à petit. D'abord, ça faisait longtemps qu'on ne mangeait plus de viande le soir.
Oui, d'accord.
Et puis après, on s'est rendu compte que l'été, avec tous les légumes, les tomates, tout ça, on ne mangeait plus de viande du tout. Ouais. Et donc, petit à petit, comme ça, on a glissé vers le végétarisme. Voilà.
C'est vrai qu'il y a aussi des adaptations régionales, quoi. Enfin, moi, j'ai un copain producteur de légumes dans la Drôme, il ne mange pas la même chose que moi.
Merci, Olivier, d'avoir été avec nous.
Oui,
bonne journée.
Bonne journée. J'ai sanglier, Didier.
Attention, allez-y.
Ça ne veut pas dire qu'on doit manger de tout.
Non, bien sûr. On peut, effectivement, c'est la possibilité. Merci, Olivier, d'avoir été dans les grandes. Allez, on va faire le résultat final. C'est la fin du match. Un quart des Français prêts à devenir vegan, inquiétant ou encourageant. Est-ce que tu as réussi à passer la barre des 20,
la remontada, peut-être,
mon cher Thomas Porcher?
On
envoie le résultat, s'il vous plaît.
Ça
n'a pas bougé. 82-18.
Tu t'es bien battu, Thomas.
Estelle Denis, s'il vous plaît. Bonjour, ma chère Estelle.
Salut Alain, salut les GG. Vous savez qu'on est à 6 jours de la Saint-Valentin. Alors nous, toute cette semaine, on va se poser plein de questions de couple. Et aujourd'hui, je me tourne vers vous. Mais parce que c'est important, Alain. Est-ce que vous faites partie de ces 46% d'hommes français à avoir déjà trompé leur conjoint?
Question, bien sûr. Et puis le type va être là, va dire oui. Bien évidemment.
D'ailleurs, si tu m'écoutes,
j'ai un truc à te dire. Enfin non.
46% des Français, hommes et femmes.
Hommes. Non, les femmes c'est moins. Attendez, nous
on est comme ça. La pureté. Oui,
non, nous on est qu'à 38%. Et oui.
Oui, alors ça, la grande hypocrisie, parce que l'homme trompe sa femme avec qui? Parce que s'il y a moins de femmes qui trompent leurs hommes.
Mais parce qu'il les trompe avec plusieurs femmes en fait.
Ah d'accord.
Il a même femme pour plusieurs hommes.
J'imagine. Enfin, j'en sais rien. Bon bref.
Et toi, Estelle, tu réponds à cette question?
Ah non, mais moi j'ai toujours décidé. Ah non, c'est un mode de vie. Ouais. Écoutez, c'est comme ça.
Elle a l'air d'être droit dans ses bottes.
Donc,
là, hein.
La question, faut-il avouer à son conjoint qu'on l'a trompé ou au contraire garder le secret? Ce sera notre question de 14h. N'hésitez pas à nous appeler.
N'appelez pas.
C'est une émission piège.
N'avouez jamais, dit Thomas.
Même sous la torture. Ça sert à rien.
Ah ben bravo l'honnêteté.
Non, parce que même si les
ça
gens,
fait du mal,
mais, oui, et puis même si les gens ont tous les indices, au moment où tu avoues, ouais, c'est là que ça fait le plus mal.
Ok, donc ça veut dire que t'as trompé ta femme. Très
non,
bien. À 13h, on parlera de ce bénéfice.
Théoriste, un économiste.
De total 20 milliards d'euros de bénéfices. Est-ce qu'il faut taxer les super profits? Et puis il y a de la friture sur la ligne entre Laurent Berger et Philippe Martinez, le patron de la CGT. Est-ce qu'il faut durcir le mouvement? Parce que ça s'essouffle. Est-ce que le durcissement du mouvement
vient
à voir avec la Saint-Valentin?
Bien sûr.
Est-ce que c'est la seule solution désormais? On vous attend au 32-16. Je vous sens motivé.
À demain, 9h.
Écoutez-nous.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.